Bonjour à tous, bienvenue sur Antenne Doc. Vous êtes en compagnie de Caroline pour l'émission Le Temps des Fleurs. Et aujourd'hui, on va parler d'une plante très célèbre et connue par tous, à mon avis, depuis votre plus tendre enfance, et on peut même dire qu'elle peut nous accompagner même dans la mort. Si je vous dis qu'elle peut se manger par la racine, il y a de grandes chances pour que vous pensiez en effet au pissenlit, grâce à cette expression bien connue, manger les pissenlits par la racine. C'est cette expression bien populaire qui veut dire tout simplement qu'on est bien mort et enterré. Mais pourquoi donc cette expression? En général, quand on est mort, on ne peut plus trop manger. Et en plus, pourquoi les pissenlits et pas une autre herbe? À mon avis, la première des explications pourrait se trouver dans le fait que c'est une des premières plantes qui a tendance à coloniser la terre fraîchement remuée, retournée, et ainsi qui recouvre aussi les sépultures. Et donc, elle serait la première nourriture pour nos défunts. Et ce pourrait aussi être une façon ironique de rappeler que la racine du pissenlit est un guéritout. Alors, en fait, elle soigne beaucoup de choses et qu'une fois qu'on est mort, ben on n'a plus mal nulle part. Donc c'est un rapprochement peut-être un peu tiré par les cheveux pour se rassurer sur le fait que c'est peut-être le pissenlit qui contribue au fait qu'on ait apaisé tous nos maux une fois qu'on est mort. Bref, en tout cas, vous allez voir qu'il y a plein de choses à faire avec le pissenlit et pas que avec les racines. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, on parle souvent des pissenlits et non pas du pissenlit. Bien, ça c'est parce qu'en fait, il n'y a pas qu'une seule espèce de pissenlit, mais plutôt des centaines. Certains d'entre vous ont sûrement déjà remarqué les différentes formes de feuilles, le nombre de feuilles qui peut être différent aussi, la taille des fleurs. Et il y a certains pissenlits qui sont si proches les uns des autres que même les botanistes ont du mal à s'y retrouver. Et on peut compter en France que quelques spécialistes, on peut les compter sur les doigts de la main, des spécialistes du genre du pissenlit. Le nom de genre latin du pissenlit, c'est Taraxacum. Et en fait, on peut compter plus ou moins 1200 espèces. Et donc, il y a tellement d'espèces qu'on va rassembler ces espèces sous des groupes, des sections. Et en France, on compte à peu près 14 groupes et pas moins de 140 espèces. Et dans l'autre, ben, je ne sais même pas combien il y en a parce que personnellement, je ne sais pas non plus tous les différencier. Alors, le pissenlit fait partie de la famille des astéracées, les composés. La famille des astéracées se caractérise par le fait que ce que nous prenons pour une fleur unique est une inflorescence de fleurs qui est composée de plusieurs dizaines de minuscules de petites fleurs jaunes qui sont réunies toutes sur un plateau qu'on appelle un réceptacle. Et l'ensemble forme un capitule de fleurs. Enfin bref, quand vous tenez un pissenlit dans la main ou alors une pâquerette, ben, vous ne tenez pas une fleur, mais un bouquet de fleurs. La famille des composés, donc les astéracées, c'est le nom latin de la famille composée, c'est une grande famille. Et vous connaissez pas mal d'espèces de cette famille-là, comme les laitues, la chicorée, le tournesol, la marguerite ou encore l'artichaut. Il y a les chardons aussi, la camomille et l'arnica. Et en fait, toutes ces espèces, si vous les regardez bien, elles ont toutes le même type d'inflorescence. Alors, il y a aussi pas mal d'espèces qui ressemblent un peu au pissenlit, qui ont justement cette inflorescence jaune pétant. Et on a notamment le léotondon, les léotondons, parce qu'il y a plusieurs espèces, les crépis, les picris. Mais on va pouvoir, en faisant attention, bien différencier le pissenlit, déjà par le fait que bon, c'est une plante vivace, donc il y a une grosse racine. D'où l'expression « manger le pissenlit par sa racine », puisque finalement, il y a de quoi manger. Ensuite, il a beaucoup de feuilles à la base, beaucoup de feuilles basales qui partent, on va dire, du sol et de la racine. Et ces feuilles ne sont pas poilues. Si vous cassez ces feuilles ou sa tige, vous voyez aussi un latex blanc collant qui peut en sortir, un peu comme certaines laitues. Ensuite, on peut dire qu'il n'a pas de tige ramifiée et qu'il a plutôt une espèce de petite tige creuse que l'on appelle un pédoncule floral parce qu'il porte au bout de ce pédoncule l'inflorescence, le capitule jaune. Et il en a un seul, il n'en porte qu'un. Et cette tige, donc ce pédoncule, n'est pas ramifié, contrairement à d'autres espèces qui ont une tige ramifiée et peuvent porter plusieurs capitules jaunes. Donc, on a aussi ces fleurs qui se retrouvent au début de la saison en petits boutons, vraiment au cœur de l'ensemble de la rosette de feuilles. Et on peut aussi reconnaître le pissenlit grâce à ça, parce que les autres plantes n'ont pas ces boutons floraux bien caractéristiques au cœur des feuilles. Et ensuite, on a les fruits. Alors les petits fruits, vous les connaissez très bien, ils sont un peu comme des petits parachutes qui sont en fait des aigrettes de soie qui portent au bout de chaque parachute et portent un akène. Et l'akène est un fruit qui contient une graine. Et donc finalement, quand vous soufflez sur un pissenlit, mais vous faites envoler plein de petits parachutes qui vont transporter chacun un fruit et une graine. Mais alors, pour revenir un petit peu à ces espèces qui ressemblent au pissenlit, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, car finalement, les espèces qui ressemblent fortement au pissenlit ne sont pas toxiques. Je peux vous parler aussi d'une petite particularité chez le pissenlit, concernant sa reproduction. Donc il a la possibilité de se reproduire de façon normale, c'est-à-dire que les grains de pollen vont se déposer sur le pistil, et il va y avoir fécondation et on aura une graine qui aura sa combinaison génétique propre suite à l'association du mâle et de la femelle. Mais le pissenlit a aussi la possibilité de se reproduire sans fécondation. On appelle ça faire de la parthénogenèse. Et donc finalement, il n'y aura pas croisement génétique, mais le pissenlit va produire une graine qui contient un clone, et ça sera le clone parfait de la plante mère. Et c'est une stratégie intéressante que le pissenlit a développée pour pouvoir se reproduire, quelles que soient les conditions climatiques, et donc braver un peu tous les temps, la pluie, le vent, et c'est bien pour ça qu'il a la capacité de fleurir très tôt, parce que les conditions climatiques de fin d'hiver et du printemps ne le dérangent pas pour se reproduire. Et ainsi, ben, il va pouvoir colorer et parsemer nos prairies de jaune. Et c'est pour ça qu'il a notamment le surnom de roi des prairies. Alors, vous avez peut-être remarqué qu'on a donc nos prairies qui sont parées de toutes ces fleurs jaunes de pissenlit, mais vous avez aussi peut-être remarqué qu'en même temps, on a nos vignes qui ont un tapis herbacé jaune pétant. Et là, il ne faut pas confondre justement, parce que là, nous n'avons pas de pissenlit sur ces vignes que l'on retrouve sur les coteaux, par exemple, où le sol est bien sec. C'est une petite fleur jaune. De loin, elle ressemble au pissenlit. De près, eh bien, finalement, on se retrouve avec des plus petits capitules jaunes. Et parfois, on se retrouve avec des tiges ramifiées, donc elles portent plusieurs capitules jaunes. Et globalement, elles sont plus petites que le pissenlit. Il s'appelle le Crepis sancta et il est donc spécialisé, adapté à un sol qui est pauvre, peu épais, contrairement au pissenlit que lui, on va retrouver dans nos prairies avec un sol plus épais et souvent un sol plus frais. Donc on va le retrouver plus facilement dans nos vallées notamment. Et on peut retrouver le pissenlit aussi dans les vignes de vallée. Ça, c'est pas un problème. Le Crepis sancta pourra y être aussi, mais en moins grande quantité. Alors, je vous ai parlé de son petit nom, roi des prairies, mais finalement, c'est loin d'être le seul des petits noms. Il en a une bonne centaine. On peut l'appeler aussi hors des prés pour sa couleur, ou dent de lion par rapport à la forme de ses feuilles qui sont découpées et qui donnent l'impression un peu d'avoir des dents insérées comme celles d'un lion. On l'appelle aussi le lion dent. Ou chicorée jaune, et donc ben finalement le nom qui est le plus connu c'est pissenlit, qui vient de pisse en licte ou pisse au lit, Et ça, vous savez bien que c'est lié donc à ses propriétés diurétiques. Il fut même baptisé par les apothicaires de herba urinaria, qui veut bien dire ce que ça veut dire. Et ensuite, on a ces fruits qui portent aussi un tas de noms. On les appelle les voyageurs, vol au vent, parachute, cerf-volant, apparemment dans le Lot, c'est un petit nom du pissenlit pour ces fruits. On l'appelle plume ou aousel, qui veut dire petit oiseau en aveyron, ou encore duvet, poupée ou soufflé. Évidemment, qui n'a jamais soufflé sur un pissenlit? Il a d'ailleurs souvent été utilisé pour prédire l'avenir. Il est le symbole de la prédilection, la plante oracle par excellence. Alors bien sûr, il y a différentes interprétations selon les régions. Mais souffler sur un pissenlit, sur une chandelle de pissenlit comme on dit, et réussir à faire envoler toutes les aigrettes d'un coup, peut indiquer une bonne nouvelle à venir. Ou alors qu'on va rencontrer quelqu'un, qu'on va faire une belle rencontre, qu'on va se marier dans l'année, ou alors que le mariage va être heureux. Par contre, si on rate, s'il reste des fruits sur le pissenlit, sur la tête de pissenlit, ça peut vouloir dire qu'on n'est pas prêt pour se marier, qu'on ne va pas faire de rencontre imminente, ou alors, plus tristement, c'est qu'on n'est pas vraiment aimé par la personne qu'on aime. Le pissenlit est vraiment très centré sur les prédictions un peu autour des sentiments, mais il a été utilisé aussi pour les prédictions de la météo. Donc si on souffle sur un pissenlit et que tous ces parachutes vont vers le ciel, cela indique qu'il va faire beau. Et par contre, s'ils vont tous par terre, c'est qu'il va pleuvoir. Ou encore, il a été utilisé aussi par les enfants dans le temps pour retrouver leur direction lorsqu'ils étaient perdus. Et il arrivait aussi qu'on utilise le pissenlit pour indiquer une heure ou une durée en fonction du nombre de fois qu'on avait besoin de souffler sur la tête de pissenlit pour libérer toutes les graines. Donc ça veut dire que si on souffle une seule fois, c'est qu'on n'a qu'un pas de temps à attendre, donc une heure ou un an. Et si on doit souffler quatre fois, c'est qu'on doit attendre quatre heures ou quatre jours ou quatre mois ou quatre ans. Et donc il y a pas mal de petites croyances par rapport à ça. Bref, tout ça pour dire que si on l'a associé autant de croyances et tant d'espoir et aussi plein de petits noms à cette plante, c'est bien parce qu'en fait, elle fait bien partie de la vie des humains depuis longtemps et qu'elle fait partie des habitudes de l'humain. Mais avant de passer aux usages, on va faire une petite pause musicale avec une chanson des Rolling Stones qui s'intitule Dandelion, qui justement parle de ce pouvoir de prédiction du pissenlit en affirmant qu'il donne la bonne réponse à nos questions et qu'on peut lui faire confiance.
Sold your sailor's lie. Rich man, poor man, beautiful daughter's wife. to play.
Et voilà, vous êtes toujours sur Antenne Doc et on vient d'écouter une chanson qui raconte une croyance sur le pissenlit qui se dit dandelion en anglais parce que justement c'est le sujet du jour, le pissenlit, une super plante bien utile dans plein de domaines. Et donc on peut déjà commencer par ses intérêts culinaires qui sont connus depuis l'Antiquité. Alors on dit souvent tout est bon dans le cochon. Et ben là, on peut dire tout est bon dans le pissenlit, de la racine à la fleur. Et d'ailleurs, quel que soit le pissenlit, bon, il y en aura qui sont plus amers que d'autres, selon les espèces. Alors, on peut déjà commencer par dire que le pissenlit, donc, est un aliment, mais qu'on peut appeler aussi alicament. Vous savez, ce nouveau mot qui a été inventé pour désigner des aliments qui ont des propriétés médicinales et qui peuvent être des médicaments. Et donc, le pissenlit est un alicament par excellence, notamment parce qu'il a des propriétés diurétiques et détoxifiantes. Mais ça, on verra ça après. Alors, le pissenlit, comme il arrive au printemps, l'idéal, c'est de l'utiliser en cure de printemps. C'est vrai que cru, frais, on va récupérer tous ses nutriments parce qu'il est très riche en nutriments. Et il est connu d'ailleurs depuis bien longtemps pour ça. Dans le temps, les foyers les plus pauvres pouvaient aller récolter les pissenlits justement en fin d'hiver pour compléter leur stock de nourriture qui était venu au plus bas justement en fin d'hiver avant de pouvoir récupérer des légumes au potager. Donc nous, on peut continuer à faire ce genre de pratique, même si on a toujours les supermarchés pour compenser la baisse du stock. Bref, les jeunes feuilles sont à consommer en salade pour justement pouvoir bénéficier des vitamines, et notamment il est très riche en vitamine A, en vitamine C, aussi en calcium, en potassium et en fer et en plein d'autres nutriments essentiels. Alors l'idéal, c'est quand même de récupérer les feuilles avant la floraison, c'est-à-dire donc récupérer cette rosette de feuilles. Alors attention à ce qu'elles soient bien sans poils pour être sûr que ce sont bien les pissenlits. Et c'est préférable parce que justement elles seront moins amères. Après la floraison, elles vont commencer à se charger en amertume. On peut aussi utiliser les boutons floraux quand le capitule n'est pas encore ouvert. Et ensuite vous pouvez utiliser les fleurs complètement épanouies, il n'y a pas de souci. Alors avec les feuilles fraîches, on peut proposer des idées, on peut faire en plus de la salade, on peut faire des smoothies ou des pestos, faire des flans, du fromage frais, à la mode tzatziki, pourquoi pas, des pâtés ou des terrines végétales, voilà. Après vous pouvez aussi les poêler, les feuilles jeunes, les jeunes feuilles, vous les poêlez, vous mettez ça avec des petits lardons, et puis vous faites ainsi une petite salade de printemps avec des pommes de terre, et c'est super, c'est original, ça change. Alors en vieillissant, comme je l'ai dit, le pissenlit va se charger en amertume. Ça c'est à cause de son latex, le latex blanc. Et donc pour diminuer cette amertume, l'idéal c'est de le faire bouillir un petit peu. Donc vous goûtez, quand elles sont fraîches, vous goûtez la feuille. Si c'est trop amer, vous la mettez un peu dans une eau bouillante. Pas longtemps, vous videz l'eau, vous récupérez les feuilles. Si c'est encore amer, vous repassez dans un bain d'eau chaude. Il y a la possibilité aussi de penser à récupérer le jus de cuisson. Parce que le jus de cuisson, forcément, il va se charger de tous ses nutriments. C'est dommage de les jeter dans les égouts. Vous pouvez en bénéficier aussi. Alors par contre, forcément, si vous faites ça avec des vieilles feuilles, le jus de clisson sera peut-être un peu plus amer. Et vous pouvez le boire ensuite, comme bon vous semble, soit froid, soit chaud, à aménager comme bon vous semble, ou l'utiliser pour faire des soupes, par exemple. Et vous pouvez aussi les cuire à la vapeur. Là, vous allez éviter la perte des nutriments dans l'eau de cuisson. Mais là, par contre, l'amertume va s'en aller un petit peu moins bien. Donc finalement, une fois que ces feuilles de pissenlit sont cuites, vous pouvez les utiliser comme un légume classique, et donc en faire de la soupe, des gratins, des lasagnes. Vous pouvez aussi les utiliser pour faire des farsous, du risotto, ou alors des omelettes, des tartes, des puddings, des idées, en veux-tu, en voilà. Je vous laisse créer, imaginer dans votre cuisine. Je peux vous présenter peut-être la salade paysanne, qui est quand même assez connue. Donc en fait, il faut faire blanchir les feuilles, comme je vous ai dit, en fonction de l'amertume que vous voulez faire passer, les égoutter, les hacher. Ensuite, vous faites revenir des petites échalotes et des petits lardons dans une poêle. Vous ajoutez les pissenlits. Et puis une fois que tout ça c'est cuit, vous dressez dans un plat et vous pouvez ajouter des œufs durs coupés en morceaux. Et voilà, et ça fait une petite salade sympathique, mi-chaud, mi-froid avec les œufs. Enfin bref, vous servez quand vous voulez. Alors ensuite, on a dit que les fleurs se mangent. Donc on va pouvoir s'en servir évidemment pour décorer les salades. Mais aussi, on peut se servir des boutons floraux et en faire des câpres. Après, avec les fleurs, vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez en termes de cuisine, des omelettes, décorer des plats, des gratins, etc. Après, c'est à vous d'inventer encore une fois. Avec ces fleurs, on peut faire du thé. Donc, vous pouvez les faire fraîches ou séchées. Il y a un vin de fleurs de pissenlit aussi qui existe, mais on peut faire des boissons plus soft. Par exemple, mettre les fleurs dans de l'eau avec du jus de citron, du zeste d'orange et du zeste de citron. Faire bouillir tout ça, ajouter du sucre. On laisse infuser pendant 12 heures, ensuite on filtre et on met en bouteille. Et donc ça, en fonction de la quantité de sucre que vous avez mis, vous pouvez le boire pur ou le diluer dans de l'eau pour en faire une espèce de sirop. Et si vous voulez faire une limonade de pissenlit, il suffit de rajouter de la levure et de laisser macérer pendant 4 à 5 jours. Avec les fleurs, on fait aussi la cramaillotte, ce que certains appellent du miel de pissenlit. En fait, c'est de la gelée, qui a un goût de miel, en effet. Et c'est un travail un petit peu fastidieux parce qu'il est préférable d'enlever les sépales des fleurs. Donc les sépales, c'est la partie verte qu'il y a en dessous du capitule, parce que justement les sépales sont un peu amères. Et donc cette cramaillotte, elle est apparemment elle est déjà bonne à tartiner le matin, mais elle est aussi recommandée pour les affections des voies respiratoires. Alors ensuite, on a évidemment la racine. Donc ça, forcément, le pissenlit est connu pour ça, être mangé par la racine. La racine est riche en inuline. C'est un sucre naturel qui est directement assimilable et plus facilement assimilable, et donc intéressant pour les personnes diabétiques notamment. Alors on peut consommer les racines en les faisant bouillir, on peut les couper en rondelles et les mettre à la poêle aussi, les faire cuire en mode carotte et puis en faire de la purée avec des pommes de terre et des petits oignons pour justement lutter contre une amertume qui peut se ressentir. Et si encore cette amertume, vous avez aussi la possibilité de rajouter un tout petit peu de sucre. En général, ça casse assez bien l'amertume. Avec les racines, on peut aussi faire un succédané du café. Donc on va torréfier ces petites rondelles de racines et en les passant au four, un four très doux, faible température, ou les mettant à la poêle pour les faire griller légèrement. Et on aura un simili café. Un peu comme la chicorée d'ailleurs, puisque finalement on est dans la même famille que la chicorée. Donc pour vous prouver un petit peu que finalement le pissenlit est bien connu, bien réputé pour ses usages à la fois culinaires mais aussi médicinaux, Ben, le pissenlit a fait l'objet de culture en France, et pendant longtemps, bon, un peu moins maintenant, mais notamment en Auvergne, il y a eu des champs de pissenlit, et d'ailleurs, ils étaient cultivés pour récupérer les racines, pour faire une boisson alcoolique amère, digestive et purifiante. Donc là, forcément, il a été vendu pour ça et reconnu pour ça. Bref, il est tellement intéressant qu'il est cultivé encore et qu'il est même vendu en France par divers semenciers, là où vous achetez vos graines pour mettre dans vos potagers. D'ailleurs, à propos de culture, bon, qui n'a rien à voir avec la nourriture, il y a une espèce de pissenlit qui est cultivée, il me semble que c'est en Allemagne, elle est cultivée pour faire du caoutchouc. En fait, son latex est plus épais que les autres espèces de pissenlit. Et donc, avec, on peut faire une espèce de caoutchouc. Et donc, il est utilisé par une industrie de l'équipement automobile en Allemagne pour justement faire des pièces en caoutchouc. Des pneus, je pense pas, mais bon, voilà. Bref, pour vous dire que les pissenlits sont finalement très utilisés. Et donc, comme je le disais, pour les propriétés médicinales, finalement, oui, le pissenlit est très riche en vertus. On pourrait même parler de taraxacothérapie. Alors, taraxacothérapie, ça vient de taraxacum, le nom latin du pissenlit. Et donc, il est tellement intéressant qu'il est reconnu depuis la Haute Antiquité pour soigner divers maux. Alors, dans le temps, le suc du pissenlit était, paraît-il, utilisé pour soigner les troubles de la vue. Et ça pourrait éventuellement donner une explication sur l'origine de son nom latin, parce que taraxis voudrait dire trouble de vue. Mais bon, il y a d'autres propriétés qui, elles, ont traversé les temps, et notamment, on sait qu'il est cholagogue, c'est-à-dire qu'il draine la vésicule biliaire. Donc on va faire une infusion de feuilles ou une décoction de feuilles et de racines pendant 30 minutes et on va laisser infuser pendant quelques heures. Et ça va permettre d'augmenter le volume de bile excrétée et ainsi faciliter la digestion des graisses. Ça peut être intéressant, notamment après un gros repas bien riche et bien arrosé. Et cela va soutenir le foie. Et donc, ça a une propriété qui peut être intéressante dans le traitement d'insuffisance hépatique ou alors à l'occasion de crises de foie. Il stimule aussi les fonctions intestinales et peut aider en cas de constipation. Évidemment, on le sait, il est diurétique, donc il va activer et stimuler la fonction rénale. Et forcément, cette propriété s'associe très bien avec les régimes ou dans les cures pour justement purifier l'organisme parce que voilà, il a la propriété d'être dépuratif et donc d'éliminer les toxines du corps. Et ensuite, son amertume, qui est un principe amer, a la capacité d'être apéritive et donc de tonifier, de stimuler l'appétit et de faciliter la digestion. Alors, bien sûr, vous pouvez récolter le pissenlit et faire vos petites préparations personnelles. Vous avez largement de quoi faire dans la nature. Mais si on veut des dosages un peu plus précis des principes actifs, vous trouvez des préparations de pissenlit en pharmacie sous forme de teinture mère, de gélules, d'élixirs floraux ou encore d'ampoules. Bien sûr, comme beaucoup de plantes, il faut quand même éviter d'en consommer à outrance. Il faut toujours consommer les plantes avec modération. Même si c'est un légume excellent qui ne présente pas de risque particulier, il y a certaines personnes pour qui il ne sera pas forcément bien accepté, toléré. Certaines personnes pour qui il va même être déconseillé, notamment les personnes qui ont des problèmes de calcul biliaire. Évidemment aussi, comme il stimule le système digestif, il va aussi avoir la propriété d'être laxatif. Donc évidemment, on va essayer de ne pas trop en abuser. Et il faut savoir aussi qu'il y a certaines personnes qui peuvent être allergiques à son latex. Ah oui, et ça me fait penser que je ne vous ai pas dit un petit truc sur notre pissenlit, qui va d'ailleurs peut-être ramener certains d'entre vous dans leur petite enfance. C'est que le pissenlit peut aussi servir d'instrument vert, un instrument de musique. Mais oui, vous savez, le fameux sifflet ou trompette. Alors en Aveyron, il s'appelle la Canterello. Et donc finalement, prenez la tige et vous la coupez aux deux extrémités. Il y a une extrémité qu'on va fendre sur 1 cm, 1,5 cm maximum. Et ensuite, on va faire des petits trous à intervalles réguliers, un peu comme les trous d'une flûte hein, finalement, pour positionner les doigts dessus. Et ensuite, on va souffler très fort ben, par l'autre extrémité. Et puis, ben, vous avez évidemment la possibilité de faire différents sons en bougeant vos doigts sur les trous. Voilà, un petit jouet sympa à faire avec les enfants. C'est plutôt rigolo à mettre en place. Allez, je vous laisse maintenant écouter une chanson. Oui, bon, alors, je suis désolée, j'ai pas trouvé de morceau joué avec les sifflets du pissenlit. Mais celle-ci est sympa quand même. C'est une chanson des Hollies qui, apparemment, eux, connaissent bien le vin de pissenlit.
Every day, and now that we're through, do I love you? You come at your life that I do, do, do. Do I love you? I would drink my wine from your shoe, shoe, shoe. Stoned all the time on dandelion wine. It's all down. Every day I'm thinking of you. Do I love you? You come at your life that I do, do, do. Do I love you? I will drink my wine from your shoe, shoe, shoe.
Nous revoilà toujours sur Antenne Doc avec le temps des fleurs. Alors la fleur du jour, c'est le pissenlit, ce roi des prairies. On a parlé de tous ses intérêts culinaires et médicinaux et au début, je vous ai parlé d'une croyance autour de son pouvoir de prédiction de l'avenir dans différents domaines et dont le principal est le domaine du sentiment. Donc, pour finir, je vais vous raconter un joli petit conte qui nous apprend comment le fleuron d'or est devenu une plante oracle par excellence. Et elle est devenue aussi la plus prisée des jeunes gens en mal d'amour. Alors, c'est une légende de Marie Gevert. Il était une fois une jeune fille triste, si triste, que se promenant dans les champs, elle ne voyait ni le printemps, ni les belles fleurs. Elle n'entendait pas le merle, ne regardait même pas les poursuites des moineaux. Le soleil lui était indifférent, le ciel bleu azur aussi. Il était une fois une jeune fille triste, qui aimait un jeune et beau garçon, mais ne savait si elle était aimée. En apparence, il manifestait pour elle une indifférence absolue. Elle lui répondait par une indifférence savamment contrôlée. « Quand aurai-je le courage de lui faire connaître mon amour » pensait-elle. « Dans un an, ou bien deux, peut-être trois, dans 4 ans si je suis sûre que ce jour-là il m'aime. » Pensive et mélancolique, elle s'assied au pied d'un grand saule. Machinalement, elle cueille la première tige qui lui tombe sous la main. Au sommet de cette tige, une petite boule de fin duvet blanc. « Que c'est beau !» pensa-t-elle. « Que c'est beau et fragile !» Cette pensée lui traversa l'esprit en même temps qu'elle se met à souffler sur la boule floconneuse. Une multitude de flocons blancs s'élève autour d'elle. Dans sa main toute menue, il ne reste plus qu'une tige. Sur cette tige, un petit crâne dénudé. Sur ce crâne nu, une semence solidement ancrée. « Plus qu'une, » dit-elle à haute voix. « Une année à attendre, » lui répondit le merle. « À attendre un mari, » ajoutèrent les piafs entre deux culbutes. La voilà toute heureuse. Elle a compris le message et n'a plus peur de rester vieille fille. Elle ne sait pas qui sera l'heureuse élue. Mais la voilà remplie d'une joie soudaine, elle rayonne. Qu'elle est belle sans son masque de mélancolie. Et voilà que son chemin croise celui de ce garçon auquel elle pense chaque jour. Et comme la joie est communicative, il ose lui parler. « Pourquoi ris-tu ainsi ? Je viens d'apprendre que j'allais me marier dans l'année. » « Qui te l'a dit ? Le merle et les moineaux. » « Comment l'ont-ils su ? En lisant le message du pissenlit. Bien vite, il comprit que celle qu'il aimait en cachette allait peut-être en épouser un autre. Alors, sans réfléchir, il s'écrie. « Mais moi aussi, ils me l'ont dit. Alors ce mari, ce doit être moi. » Depuis ce jour-là, toutes les jeunes filles savent qu'elles peuvent compter sur le pissenlit pour connaître leur avenir conjugal. Et elles comptent 1, 2, 3 ou 4 années, un peu, beaucoup. Passionnément, à la folie. Une chouette petite histoire. Alors, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous connaissent ce pouvoir de prédiction, mais ma foi, ça coûte pas grand-chose d'essayer. Voilà. Avant de se quitter, je peux quand même vous parler d'une dernière petite chose concernant les symboles du pissenlit, dont un que tout le monde connaît. Mais finalement, on n'y pense pas beaucoup, ou alors on ne réalise pas forcément quand on le voit. Il s'agit d'une image qui est très familière, que beaucoup de gens côtoient, probablement régulièrement. C'est l'image d'une femme qui souffle sur les aigrettes du pissenlit. Mais oui, vous savez, ce fameux logo du dictionnaire Larousse, dessiné par Eugène Grassier, qui est devenu le symbole de la connaissance semée à tout vent. En fait, en rapport avec la dispersion du savoir, de la même façon que les graines du pissenlit sont capables de se disperser avec le vent. Alors le choix de cette fleur bien connue de tous suggère justement que le dictionnaire se propose de dispenser une science familière accessible à tous. Voilà. J'espère que j'aurai semé chez vous de petites graines de savoir, de curiosité et surtout d'envie d'aller récolter quelques pissenlits pour profiter de tous leurs bienfaits. Et je vous invite aussi par la même occasion à en profiter pour les observer, prendre le temps de les admirer avec leurs jolies fleurs qui ressemblent un peu à des soleils. Et en plus, vous aurez peut-être la possibilité de voir des insectes butineurs qui raffolent aussi de leur nectar si vous y allez à la bonne heure. Allez, on se quitte en musique avec Sad Eye qui chante aussi une chanson qui s'appelle Dandelion, qui fait justement référence au pouvoir de dispersion du pissenlit et le fait de répandre, par exemple, la connaissance ou encore mieux, l'amour, comme les graines d'un pissenlit. Avant de vous quitter, je peux quand même vous dire que bien, avec le printemps et les petites fleurs qui arrivent, l'association Primula reprend aussi son activité et repropose de nouveau des petites balades botaniques autour justement des plantes sauvages et de leurs usages. Et donc vous avez la possibilité d'aller voir le site internet qui est primula-ph.fr et sur lequel vous allez trouver le programme et les prochaines dates de balades. Alors à bientôt et bonne balade. C'était Caroline de l'association Primula Plantes et Hommes.
appeared out of thin air. I think I know you from somewhere. And all this suddenly, don't need words to comprehend what we're carrying in our hands. The future lies ahead of us. Can you feel that we are spreading like a dandelion?
Like a dandelion.
Breathing our summer rush. All the feelings they are spreading like a dandelion. Swirling round. Now we're face to face. Think I found my missing piece in the air I like to breathe. The future lies ahead of us. Can you feel that we are spreading like a dandelion?
Like a dandelion.
Breathing our summer rush. All the feelings there.